Merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi aussi, je me souviens bien de ce culte du mois de février de l'année dernière. J'étais très heureuse d'avoir des représentants de l'IEF. Et en fait, on a beaucoup de chance parce que on a un temple qui est plutôt grand. On a une communauté qui est plutôt petite. Et du coup, même avec les restrictions actuelles, on est assez au large dans le temple. Donc voilà, vous ne pourriez pas venir à 20, mais à quelques-uns, ça ne poserait pas de problème.
Bon.
Pour l'instant, c'est plus de Sainte-Seine. Et évidemment pas de repas après le culte.
Ben merci, merci. On va y songer, alors on va voir.
Alors, c'est vrai que le dimanche des Rameaux, c'est un dimanche où on fait un culte commun à trois communautés.
Il y aura du monde.
Peut-être que c'est pas le dimanche où il faut venir parce qu'il y aura déjà beaucoup de monde. Mais voilà, on peut en reparler, Françoise. En tout cas, vous pouvez tous ici vous sentir invités au culte de ma paroisse le dimanche à 10h30.
Donc pour les étrangers, près de la gare Montparnasse. Donc vous pouvez prendre le train jusqu'à la gare Montparnasse.
Voilà. C'est à 10 minutes à pied de la gare Montparnasse. Alors, on va démarrer. Voilà. Et donc, après pas mal de discussions, on s'est mis d'accord sur ce titre pour ma présentation. L'être humain au défi de ses limites, une approche biblique. Alors peut-être que je crois que j'ai été assez présentée, hein, c'est pas la peine que je redise que je suis pasteur donc de l'Église protestante unie de France, qui est une des églises protestantes de France, et donc ma paroisse est près de Montparnasse, à Paris. Voilà. Est-ce que ma diapo ne se passe pas? Excusez-moi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce titre, hein, qui, je le conçois bien, est un peu mystérieux. Mais je pense qu'il va s'éclaircir tout au long de ma présentation. Alors je suis partie de ce que j'appelle des hypothèses de travail, qui sont d'abord des données de base, avec lesquelles je pense que vous serez d'accord. L'être humain est limité. La plus flagrante de nos limites, ben, c'est que notre vie est finie. Je ne veux pas dire qu'elle est terminée là où quand on se parle, mais en tout cas. Elle ne dure pas éternellement. Et donc, notre finitude, c'est la première de nos limites. Mais il n'y a pas que notre vie qui soit limitée. Nos capacités sont limitées. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Notre pouvoir est limité. Notre savoir, même notre imagination. En fait, voilà, on est tout entier des êtres de limites. Et puis on peut aussi dire que depuis que l'être humain existe, il essaye de repousser ses limites. Et c'est d'ailleurs étonnant comme l'expression repousser ses limites.
On entend très bien.
Oui, et d'ailleurs, je vais vous demander de fermer votre micro, parce que tout le monde vous entend très bien. Je propose que. Pendant que je parle, vous éteignez tous vos micros. C'est très très facile de le rallumer quand vous voudrez poser une question et il y aura plusieurs moments où on pourra poser des questions. Mais en attendant, pour le confort de tout le monde, je vous propose que vous coupiez vos micros sur les écrans d'ordinateur. C'est en bas à gauche et sinon moi je peux le faire pour vous.
Ah bah. Oui, faites-le alors, parce que tout le monde ne sait pas où se trouve le micro sur l'ordinateur.
Très bien.
Donc faites-le, s'il vous plaît. Oui. Ça sera beaucoup mieux après.
Je fais ça.
Marie-Josée, ferme ton micro.
J'arrive. Alors, je pense qu'il faut. Excusez-moi, je désactive le. Voilà.
Parfait.
Voilà. Donc là, tous les micros sont désactivés. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous pouvez me faire signe de la tête ? Parfait. Merci beaucoup. Reprenons. Voilà. Donc, voilà. Depuis toujours, donc, l'être humain s'évertue à repousser ses limites. Et ça me frappe comme cette expression, repousser ses limites, est une expression dans notre langage qui est positive, qui est même extrêmement valorisante. Hein. Quand on parle de quelqu'un, d'un héros, on dit qu'il a repoussé ses limites. Il faut noter, et j'insiste, parce que je voudrais surtout pas que vous pensiez que je pense que c'est négatif hein, de repousser ses limites, et donc j'insiste sur le fait que le plus souvent, quand on repousse nos limites, les objectifs sont totalement louables et positifs. Alors, il y a évidemment quelques exceptions, mais le plus souvent, c'est pour, entre guillemets, faire du bien. Par exemple, je schématise, mais pour donner un exemple, dans la deuxième partie du XXe siècle, ce qui a poussé au développement de l'agriculture intensive, dont on reconnaît maintenant un certain nombre d'inconvénients et de méfaits, mais en tout cas ce qui a poussé à mettre ça en place, c'était l'objectif de nourrir la terre entière, la population entière, et de la nourrir à bas prix pour que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture. Et d'ailleurs, ça, dans un certain sens, ça a fonctionné. Voilà. Donc, il n'y a pas que des gens qui ont des objectifs nuisibles qui s'emploient à repousser des limites. Bien au contraire. Mais on peut quand même noter que, d'une façon sous-jacente, parfois c'est même au premier plan, on sent qu'il y a une certaine ambition d'une maîtrise absolue de tout et une certaine ambition de toute puissance de la part de l'être humain. Voilà. Alors maintenant, faisons le lien avec la crise écologique actuelle. Tout ça, c'est toujours mes hypothèses de travail. C'est pas là-dessus qu'on va vraiment travailler ensemble dans un instant. Donc la crise écologique actuelle, je ne parle pas que de la crise du Covid. Mais voilà, d'une façon plus générale de tout ce qu'on entend par la crise écologique, la crise environnementale, eh bien je pense qu'en fait c'est directement lié à ce fait que l'être humain essaye tout le temps de repousser les limites. Et en fait, eh bien voilà, on ne peut pas profiter de tout indéfiniment, parce que la plupart des choses sont limitées. Voilà, les ressources sont limitées. Ben, quand on a fini d'utiliser le pétrole, eh ben, il n'y en a plus. Alors, je sais que le pétrole est une énergie renouvelable, mais ça met quand même très 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 longtemps à se renouveler. Bon, c'était un exemple, hein, mais vous imaginez bien d'autres exemples. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas non plus supprimer les limites tout le temps, parce que les limites et les cadres sont nécessaires à l'équilibre du monde. S'il y a une couche d'ozone, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et on le voit bien maintenant, que, en tout cas au départ sans faire exprès, on a diminué la couche d'ozone, on le paye cher par un dérèglement climatique. Et voilà, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'être humain, finalement, n'est qu'une toute petite partie d'un équilibre global, et qu'il ne peut pas être dans une position de surplomb par rapport au monde entier qui l'entoure. Voilà. Donc ça, c'était mes hypothèses, mes données de base, hein, sur lesquelles je vous propose maintenant de regarder ce que la Bible nous dit. J'arrête le partage d'écran pour vous regarder. Est-ce que jusque-là, vous me suivez ?
Oui.
Bien. Alors, qu'en dit la Bible de tout ça? Eh bien, la Bible nous dit que la vie n'est possible que dans un monde limité et encadré, qui rend la liberté et l'autonomie possible. On verra que ce sont ces limites et cet encadrement. Ah, le volet se ferme à côté de moi. Qui rendent donc la liberté et l'autonomie de l'être humain possible, mais aussi que ces limites et ce cadre ne sont pas toujours là où on les attendrait, là où on les voudrait, et que même parfois, elles se déplacent. Je vous propose, pour illustrer ce propos, de prendre trois exemples. J'ai choisi ces trois textes bibliques, il y en a éventuellement beaucoup d'autres, mais il fallait faire un choix. Alors, comme rien ne m'arrête, vous voyez, eh bien, je vous propose de lire les trois premiers chapitres de la Genèse ensemble. Et là, évidemment, on ne fera que les balayer très rapidement. J'ai choisi, d'une façon un peu autoritaire, on pourrait dire, les passages de ces trois chapitres qui concernent directement mon sujet. Il y aurait énormément d'autres choses à dire, évidemment, ensemble. Et puis, un autre texte de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie, où on verra que il y a dedans des exemples qui sont parfaitement actuels. Et puis dans le Nouveau Testament, je vous propose de lire la parabole de l'homme riche dans l'évangile de Luc. Mmh. Mmh. On y va ? Alors, je vous mets à l'écran la Genèse. Voilà. Donc je vais lire. Je vais lire pour commencer les 13 premiers chapitres de la Genèse. J'ai pris comme traduction de base la traduction œcuménique de la Bible, à laquelle j'ai apporté un certain nombre de modifications personnelles. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le ciel, appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel, que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence, selon son espèce, des arbres qui portent des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Alors, ce qu'on voit dans ce texte, au début, dans le verset 2, qui nous est ici traduit « La terre était déserte et vide ». Alors évidemment, quand on lit ça, on a l'impression qu'il n'y avait rien. On a l'impression que c'était le vide, voilà, une absence totale de matière. En fait, il n'en est rien, puisque d'abord la terre existait déjà. Il y avait la ténèbre, il y avait de l'eau, puisque le souffle de Dieu planait à la surface des eaux alors que Dieu n'a encore rien créé. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une création ex nihilo à partir de rien. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, et ce quelque chose, il est décrit dans cette traduction comme désert et vide. Et vous savez peut-être que en hébreu, ce qu'on traduit ici par déserte et vide, ce sont en hébreu les termes tohu vabohu, ce qui est exactement, ça a donné directement notre tohu bohu. Tohu vabohu. Voilà. Et donc la terre était en fait un tohu bohu. Donc vous voyez bien que un tohu bohu, c'est tout, sauf rien du tout, sauf du vide. C'est plutôt un énorme bazar sans nom, ou voilà, un énorme désordre, en tout cas. Et donc il y a dans ce verset 2 une idée, non pas de vide, mais bien au contraire, une idée de chaos, d'énormément de choses, presque d'une infinité chaotique, en tout cas de quelque chose qui est complètement désordonné, sans aucun ordre et sans aucune limite. Et dans cette infinité chaotique sans limite, la vie n'est pas possible. Il n'y a pas de vie. Et c'est ça qui va être la création de Dieu, c'est d'ordonner ce chaos pour que la vie soit possible. Et Dieu, sa création n'est pas au sens propre une création, mais c'est plutôt, si je puis dire, un espèce de rangement, n'est-ce pas ? Il va ranger les choses, il va les ordonner, et il va surtout les séparer. C'est ça qui va permettre de mettre les limites qui vont rendre la vie possible. Alors il va mettre des différentes barrières, différentes limites, des barrières temporelles, comme la nuit et le jour, hein, c'est les versets 3 à 5, il y a la lumière, Dieu sépare la lumière de la ténèbre, voilà, et puis il en appelle une jour et l'autre nuit. Ensuite, il va y avoir des séparations physiques, on voit ça au verset 6, 7, 8, il sépare physiquement la grande masse d'eau qui était voilà, une énorme unité sans limite, il la coupe en deux, il la sépare, il y a les eaux du haut et les eaux du bas, et puis il va y avoir entre les deux ce qui va s'appeler le firmament et qui va s'appeler le ciel. Et puis ça continue, dans cette séparation, il va y avoir encore une séparation supplémentaire qui est la terre et la mer. Et à chaque fois, on leur donne des noms quand tout ça est bien calé avec des limites. Et on voit qu'il y a à la fois un cadre physique qui s'instaure avec le ciel, la terre, la mer, toutes ces séparations. Et puis, il y a aussi un cadre temporel. On a le jour et la nuit. Donc, il y a les deux qui sont d'ailleurs mélangés dans le texte, hein. Entre le cadre temporel et le cadre physique, qui sont des instaurations temporelles et physiques et qui vont permettre à la création et à la vie d'apparaître. Pour l'instant, à la fin du verset 10, il n'y a toujours aucune vie. Dieu a juste préparé le cadre. Et la vie apparaît au verset 11 avec les végétaux. On est ici. Une notion importante qui arrive dans ces versets 11, 12, 13, c'est la notion de biodiversité. À chaque verset, on nous précise que les végétaux sont créés selon... Enfin, ils ne sont pas créés d'ailleurs, hein, il n'y a pas le verbe créer là. Ils arrivent, ils sont, en fait, hein, il en fut ainsi, ils sont, ces végétaux, et ils sont selon leur espèce. Vous l'avez au verset 11, ici. Vous l'avez au verset 12. Voilà. Et donc, ce que de nos jours on appelle la biodiversité, elle est présente là, dans le texte biblique, et elle est présente comme quelque chose qui est voulu par Dieu. On pourrait presque dire comme une bénédiction, hein, puisque Dieu voit ces végétaux selon leur espèce et il vit que cela était bon. On voit aussi que ce cadre qui a été mis en place par Dieu est un cadre qui fonctionne avec des limites, hein, comme tous les cadres, mais que ce n'est pas un cadre uniformisé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est pas parce que les choses sont limitées qu'elles sont toutes pareilles. Bien au contraire, il y a une insistance particulière sur la diversité. Est-ce que jusque-là, ça va? Ou quelqu'un veut prendre la parole? Pour prendre la parole, pour remettre votre micro, il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espacement du clavier. La barre d'espacement, vous savez, c'est là où on tape pour mettre un espace entre deux mots. Quelqu'un veut prendre la parole? On continue? On continue. Alors, on arrive au verset 14, on va lire de 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Alors, c'est tout à fait étonnant ce qui se passe ici, parce que Dieu fait émerger la journée, le jour et la nuit, alors qu'il l'avait déjà fait dans les versets précédents. Hein, notre verset 14, ici, les luminaires au firmament pour séparer le jour et la nuit, ici, pour séparer le jour et la nuit, là, il avait déjà séparé le jour et la nuit au verset 5. Ici. Donc, il a dû penser que ça ne suffisait pas parce qu'il recommence. Et au verset 4, il avait séparé la lumière de la ténèbre. Et il recommence ici, au verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière de la ténèbre. Donc on a là 14, 15, 16, 17, 18, 19, on a là 6 versets. Après l'arrivée des végétaux, mais juste avant l'arrivée du règne animal, ces 6 versets qui sont en fait une répétition de quelque chose qui existait déjà, comme si, au moment de créer l'ordre animal, Dieu se disait, il faut quand même vraiment que je mette bien des limites et que mon cadre soit vraiment bien installé, parce que ce règne animal, je sens, il va essayer de me mettre tout ça par terre. Et donc on a l'impression que Dieu consolide quelque chose qu'il avait déjà fait. Parce que, voilà, il y a un risque là, et il faut que vraiment tout soit bien solide avant l'arrivée du règne animal. Et évidemment, dans le règne animal, je mets l'être humain, hein, bien sûr. Avec les plantes, il n'y avait pas trop de risques, hein, mais maintenant, ça commence à être risqué. On voit aussi, ici, quelque chose de très intéressant, qui est que Dieu délègue. En particulier, dans le verset 14, le soleil et la lune servent à marquer les fêtes et les jours et les années. Donc là, Dieu, il ne va plus être le seul et unique maître du temps. Il délègue l'organisation du temps à ce qui va s'appeler le soleil et la lune et les étoiles. Pour autant, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne vont devenir des dieux. Donc, ils ont une certaine autorité, un certain pouvoir que Dieu leur confère, et c'est quand même pas n'importe quoi, hein, puisque c'est eux qui gèrent le temps, mais ils sont quand même limités, ils ne deviennent pas des dieux ou des divinités pour autant. Et nous arrivons maintenant à la création des êtres vivants, des êtres du règne animal. Dieu dit que les eaux grouillent des bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On sent que là, il se passe quelque chose d'important, parce qu'on a pour la deuxième fois le verbe créer ici, au verset 21. On ne l'avait eu que dans le verset 1, au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Tout ce qui a été, tout ce qui est apparu jusqu'à maintenant ne relevait pas du verbe créer. Et là, Dieu crée, et qu'est-ce qu'il crée ? Il crée les animaux de la mer et les oiseaux. Par contre, on voit au verset 24 que les animaux de la terre, eux, ne sont pas, au sens propre, créés. Ils sont comme tout le reste, la mer, la terre, le ciel, les luminaires, etc. C'est simplement « ils sont hein, », avec cette expression et ce verbe « être », il en fut ainsi. Donc c'est comme si les animaux de la mer et les oiseaux, comme ils sont créés par Dieu, c'est comme si quand même ils bénéficiaient d'un statut un peu particulier, me semble-t-il, un peu au-dessus des animaux qui sont sur la terre ferme. Et les animaux de la terre ferme, ils ne sont pas bénis par Dieu. Il n'y a que les animaux de la mer, hein. Dieu les bénit et les oiseaux. Dieu les bénit en disant soyez féconds et prolifiques. Les animaux de la terre, ils ne sont pas bénis et ils ne sont pas appelés à se multiplier. Et puis on a de nouveau dans ces six versets très fortement cette notion de biodiversité. Je pense que quand j'ai lu, vous l'avez entendu, cette répétition de selon leur espèce, selon leur espèce. Vraiment tous ces animaux sont créés avec toutes les espèces pour chaque animal. Donc il y a une insistance très forte sur la biodiversité. On arrive à la création de l'être humain. Je lis les trois versets, 26 à 28. Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remuent sur terre. »
Voilà.
Ah là là, ces trois versets, ils sont compliqués, hein. Et ils ont tellement alimenté pendant des siècles l'idée que l'être humain était là justement pour dominer tout ce qu'il y avait sur Terre, que la Terre était un cadeau que Dieu faisait à l'être humain pour qu'il le soumette et qu'il le domine. Alors en pratique, il me semble que c'est une domination qui reste quand même assez relative. Imaginez-vous à l'époque où ces textes ont été écrits, il est évident que personne ne pouvait soumettre les grands monstres marins, ni même les poissons de la mer. Les Hébreux étaient un peuple qui ne savait pas nager et qui ne savait pas naviguer. Ils avaient très très peur de la mer, donc ils ne pouvaient absolument pas soumettre les poissons de la mer. Je ne crois pas non plus qu'ils pouvaient soumettre les oiseaux du ciel, je ne vois pas très bien comment ils auraient fait. Et pas non plus les bêtes sauvages. Donc cette soumission-là dont il est question, à l'époque, elle ne pouvait pas apparaître comme une soumission absolue. c'était forcément quelque chose d'extrêmement relatif, et c'était quand même, on peut dire, dans la pratique, plutôt le contraire. C'était plutôt les êtres humains qui étaient à la merci de tous ces animaux. Il y a certainement derrière cette image une autre image qui est l'image d'un dieu dominant les animaux et la terre, et c'est une image qui appartient à l'idéologie royale du Proche-Orient ancien. Dans tout le Proche-Orient ancien, le roi, alors en utilisant une expression anachronique, je dirais que c'est un roi de droit divin, en tout cas c'est toujours, qui correspond à la monarchie française, mais c'est toujours un roi qui est là à l'image de Dieu pour faire régner sur terre, pour être le garant sur terre de l'ordre établi par Dieu. Et donc là, dans cette image de ces trois versets, d'un être humain, c'est-à-dire pas un dieu évidemment, mais pas non plus un roi, hein, puisque là on parle de toute l'humanité, qui serait ce garant de l'ordre, qui soumettrait tout le monde, comme normalement c'est la prérogative du roi, ça relève en fait d'un espèce de décloisonnement fantastique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de limites, hein, il n'y a plus de règles. Cette règle qui normalement était l'apanage du roi, ici, elle devient celle de tout le monde. On a aussi, me semble-t-il, quelque chose d'intéressant, c'est que cet être humain, il a quelque chose un peu d'animal, en particulier avec ce petit bout de verset, « Mâle et femelle, il les créa ». Les deux termes hébreux, c'est vraiment le mâle comme un animal mâle et femelle comme un animal femelle. Il y a des traductions qui disent homme et femme, il les créa, mais c'est pas du tout ces mots-là qui sont utilisés en hébreu. Il y a d'autres mots qui veulent dire homme et femme, mais c'est pas ça qui est utilisé là. Là, c'est vraiment comme s'il y avait un aspect, comme s'il y avait, ben, ça, c'est pas comme s'il y avait, parce qu'il y a un aspect animal dans l'être humain. Et donc là aussi, il y a quelque chose du décloisonnement, à mon avis.
Décloisonnement.
Et d'une limite, peut-être, on aurait aimé qu'il y ait une limite ferme, hein, entre l'animal et l'être humain, mais elle n'y est pas là.
Ah oui. Wow.
Alors, on va terminer le chapitre 1. Enfin, en tout cas, ce que j'ai retenu du chapitre 1, avec les versets 29 à 31. Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe verte. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Alors, dans ces trois versets, qu'est-ce qu'on a d'important qui apparaît ? On a le fait que les êtres humains sont végétariens. Ça, c'est clairement dit. Je vous donne toute herbe qui porte sa semence, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. Bon. Beaucoup de chercheurs voient dans toute herbe qui porte sa semence les céréales. Et donc, on peut penser que la nourriture qui est conférée à l'homme, qui est offerte à l'homme, ce sont les céréales et les fruits. Le fait que l'être humain soit végétarien, c'est très important parce que ça vient mettre un petit bémol à l'idée de domination qu'on avait vue sur les animaux qu'on avait vus dans les versets précédents, puisque l'homme peut-être qu'il doit dominer et soumettre les animaux, mais en tout cas, il n'est pas question de les mettre à mort pour les nourrir, puisque l'être humain ne va pas se nourrir d'eux. Donc c'est une domination qui a elle aussi des limites. Et la limite, c'est la mise à mort. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, Dieu donne aussi à manger et il leur donne de l'herbe verte. Et c'est pas la même chose que ce qu'il avait donné à l'être humain. Donc probablement c'est l'herbe, les feuillages, enfin voilà, tout ce qui est vert, c'est pour les animaux. Et donc non seulement l'être humain ne va pas tuer les animaux parce qu'il ne va pas les manger, mais en plus, ils ne mangent pas la même chose. Donc, il n'y a pas de concurrence pour la nourriture entre les êtres humains et les animaux. Et donc, on voit que cette soumission des animaux par les êtres humains, elle a quand même beaucoup de limites pour ne pas devenir une soumission absolue. Alors, vous allez me dire, et je sais bien que cette règle du végétarisme, elle va sauter, hein, si on peut dire, dans la suite de la Bible. Ça commence en Genèse 9, après le déluge, où Dieu, à ce moment-là, autorise les êtres humains à manger les animaux, mais tout en y mettant quand même des limites, tout en disant, vous pouvez les manger, mais il faudra quand même que... Et dans tout le reste du Pentateuque, il y aura tout le temps des limites qui seront rajoutées et des règles au fait de manger des animaux. Peut-être que Dieu a vu que ça ne fonctionnait pas de laisser l'être humain végétarien, que ça partait dans tous les sens, et que donc il valait mieux qu'il les autorise à manger des animaux. Ça leur lui permettait de mettre quelques limites quand même. Alors, voilà pour le chapitre 1 de la Genèse. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou partager quelque chose avec nous? Alors, ça m'inquiète de voir que personne ne prend la parole. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez pas, que je vous ai coupé définitivement les micros, que vous ne pouvez pas reprendre la parole?
Et si on peut reparler,
voilà,
on peut reparler.
Merci, merci Jeff, de me rassurer.
Alors, moi, je vois que la traduction ici dans la top, c'est une herbe mûrissante et pas verte.
Oui, 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 mais alors j'ai vérifié.
Ou jaunissante, ou jaunissante dans le terme hébreu.
En hébreu, ça veut dire vert.
Ah non.
Voilà.
Là, ils disent jaunissante aussi.
Après, vous savez, toute traduction est une interprétation.
Voilà.
Mais c'est l'adjectif en hébreu vert, c'est pas l'adjectif jaune.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai apporté cette modification. Vous avez l'œil, hein, Jeff, quand même.
Oui, je l'avoir. Je suis les deux traductions.
Bon, ça va?
Oui, ça va.
On passe à Genèse 2?
Oui.
Alors, Genèse 2, j'ai commencé au verset 4. J'ai enlevé le sabbat. Vous voyez que, décidément, elle m'arrête. C'est parce que on pourrait en parler pendant des heures. Évidemment, dans le sabbat aussi, il y a une idée de limite, hein, puisqu'il y a un moment où on s'arrête. Voilà. Je trouvais que ça parlait en soi, simplement de le rappeler, et on va passer à la deuxième création, le deuxième récit de création, qui vient donc en parallèle de celui que l'on vient de voir. Et donc, on va lire jusqu'au verset 9. Le jour Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'être humain avec de la poussière prise du sol, il insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'être humain devint vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'être humain qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alors, dans ces quelques versets, ce qui me paraît important, c'est d'abord quelque chose qu'on va revoir un tout petit peu après, c'est que le Seigneur fait remarquer qu'il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Et donc, on va voir que s'il crée l'être humain, c'est pour que l'être humain travaille. Et donc, je ne sais pas qui, dans l'histoire de l'humanité, a inventé l'idée de paradis, mais il n'y a aucune idée de paradis dans la Genèse. Le jardin que Dieu va faire, c'est un jardin dans lequel l'homme doit travailler. Je dis ça parce que pour moi, le paradis, c'est un endroit où on ne travaille pas. C'est un endroit de vacances éternelles, vous voyez, où on est sur son transat. Voilà. Donc là, il ne s'agit pas du tout de ça. Ensuite, alors évidemment, vous voyez bien que cette création, elle est très très différente de celle qu'on vient de voir. Hein. Ici, l'être humain est créé en premier, les animaux après. tout est complètement différent. C'est deux récits qui parlent de la même chose, mais d'une façon extrêmement différente. On ne peut pas les faire tenir ensemble. Ici, ce qui me paraît important, c'est ça. La création de l'être humain, Dieu prend de la poussière et il insuffle dans les narines de l'être humain l'haleine de vie qui fait que l'être humain devient vivant. Dans cette insufflation de l'haleine de vie, moi je vois un don primordial. Et pour tout ce qui est mon sujet aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire notre rapport à nos limites et à la création, il me semble qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a un don qui nous précède, en fait. Et que si Dieu ne nous avait pas donné son haleine de vie, qu'il a soufflé en nous, eh bien, nous ne serions pas là. On voit encore dans ce texte l'idée de la biodiversité, avec l'adverbe tout qui revient tout le temps, hein, tout arbre. Et oui, c'est ça, voilà, tout arbre. Voilà, c'est toujours cette idée de biodiversité. Pour la suite du récit, je vous invite à retenir que l'arbre de vie, c'est celui qui est au milieu du jardin, et que l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, on ne dit pas où il est. Il n'y en a qu'un dont on nous précise sa localisation, c'est l'arbre de vie, et c'est lui qui est au milieu du jardin. Alors là, on va passer au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'être humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Donc vous voyez que là, l'homme, il est là pour travailler. N'importe qui d'entre vous qui a déjà eu un bout de jardin sait très bien que cultiver le sol et le garder, c'est beaucoup de travail. Il faut beaucoup se baisser, il faut beaucoup transporter de choses et on a très chaud. Donc c'est pas du tout une image paradisiaque. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'être humain, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Donc, voilà, comme vous entendez que j'insiste sur le fait que ce jardin d'Éden n'est pas une image paradisiaque où on peut faire tout ce qu'on veut et où il n'y a pas de limite, pas du tout. C'est un endroit où il faut travailler, et pour cultiver le sol, il y a forcément des règles, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est clair, et ce n'est pas très amusant. Même s'il y a des bénéfices, évidemment, quand ça pousse, hein. Bien sûr. On voit aussi que ce qui définit ce rapport à la terre et à la création, c'est le travail, c'est pas le bénéfice. C'est-à-dire que ce que Dieu met en avant, c'est pas tu vas travailler pour pouvoir en bénéficier, pour que ça soit bien pour toi. Ce qui fait le ferment de la relation entre l'être humain et Dieu, c'est que l'être humain va travailler. Et puis il y a cette limite majeure que l'histoire de l'humanité a retenue, qui est cette première défense. Voilà, c'est défendu de manger de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit pas très bien, là où on en est, on voit pas très bien pourquoi est-ce que l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, ça ferait mourir. Mais enfin, c'est ce qui est écrit. On voit encore une fois que là, il n'est pas question de manger les animaux, hein. D'ailleurs, ils n'ont pas encore été créés, les animaux. Donc, encore une fois, l'être humain est végétarien. Après ce verset 17, on a la création, à partir de cet être humain initial, on a la création de la femme et de l'homme. C'est un texte très intéressant sur lequel j'ai tas de choses à dire, mais je crois que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai enlevé ces versets. Même si on pourrait dire d'une certaine façon que ces versets ne permettent pas d'appuyer une certaine idée patriarcale de soumission de la femme, eu égard au fait que l'homme a été créé en premier, puisque l'homme n'a pas du tout été créé en premier, il a été créé être humain, ça, les termes hébreux sont extrêmement clairs, et c'est et l'être humain est coupé en deux. Hein, Dieu prend non pas une côte, comme on traduit toujours, le mot hébreu n'a jamais voulu dire côte, mais prend un côté, un des côtés de l'être humain, pour créer la femme. Et une fois que la femme est créée, ce qui reste de l'être humain devient un homme. Mais bon, on va dire que c'est pas le sujet direct d'aujourd'hui, donc je l'ai pas mis, et je vous propose de passer au chapitre 3. Alors, je vois que Françoise me demande s'il y a des personnes en attente. Non, il y a personne en attente. Moi, j'ai personne... J'arrête un instant le... Non. Attendez, je... Non, les participants. Non, j'ai personne en attente. Il y en avait plusieurs, mais je les ai fait rentrer.
Bon, merci bien. Merci, Marie-Pierre. Excusez-moi. C'est parce que je reçois des SMS, des...
Ça vous fait souffler aussi un instant. Alors, on passe au chapitre 3. On va lire les 7 premiers versets. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pas. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'ils découvrent, l'homme et la femme, une fois qu'ils ont mangé de ce fruit défendu? Moi, je pensais que ça nous aiderait à savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais en fait, la seule chose qu'ils découvrent, c'est qu'ils sont nus. Or, dans tout l'Ancien Testament, la nudité, c'est dans la très très grande majorité des cas, un signe de pauvreté, de fragilité, de vulnérabilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La nudité, c'est un signe de vulnérabilité. C'est dans la très très grande majorité des cas, il n'y a pas de connotation sexuelle. Et donc là, ce qu'ils découvrent, l'homme et la femme, c'est qu'ils sont vulnérables. Évidemment, quand on est nu, on est vulnérable, je crois qu'on le sait très bien nous-mêmes aussi. Et donc, en fait, le bon et le mauvais, cet arbre du bon et du mauvais, c'est pas un arbre qui va nous montrer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est plutôt un arbre qui nous met en face de notre vulnérabilité et de nos limites, de notre finitude. Ce que ça ne dit pas, c'est si cette finitude que ça nous montre, si c'est plutôt bon ou plutôt mauvais. Il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que Ève, elle dit que là où celui qu'elle n'a pas le droit de toucher, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Et l'arbre qui est au milieu du jardin, vous vous souvenez, c'est l'arbre de la vie. C'est pas l'arbre de la connaissance du bon et du mal. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus logique que ce soit l'arbre de la vie, puisque Dieu avait dit « vous mourrez ». Alors là, il y a un lien direct, n'est-ce pas, entre la vie et la mort. Si on s'attaque à l'arbre de la vie, eh bien, on devient mortel. Ça paraît beaucoup plus logique. Mais encore une fois, on ne sait pas si ce fait d'être mortel, ce que Adam et Ève, enfin, ils s'appelleront plus tard Adam et Ève, découvrent là, par le fait qu'ils sont nus, donc par leur finitude, on ne sait pas non plus si c'est bien ou si c'est mal. Peut-être aussi qu'une autre question qui est posée ici, c'est qui est-ce qui décide, en fait, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais? Est-ce que ça doit rester du domaine de Dieu? Et c'est pour ça que l'être humain n'a pas le droit de toucher à cet arbre.
Dans le message que je vous ai envoyé, il y a en gros...
Et justement, eux, quand ils le font, ce qu'ils découvrent,
Alors, il faut que tu descendes un petit peu.
C'est qu'ils peuvent pas se mettre au même niveau que Dieu, parce qu'ils découvrent leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité.
C'est Marie-Pierre Tourneau, la conférencière, qui est à la main.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal?
Elle va peut-être un petit peu attendre.
Et peut-être aussi que ce qui est en jeu ici, c'est la question de la confiance que l'être humain fait à Dieu. Dieu avait posé des règles, et peut-être que le rapport entre l'être humain et Dieu se faisait par l'obéissance à cette règle. Eh bien, justement, l'être humain découvre qu'il a une certaine autonomie, même à l'intérieur de ces règles posées par Dieu, puisque Dieu les laisse faire. Donc, et même après, il va leur c'est un peu plus loin dans le texte, il va leur donner des habits pour les habiller. Donc, il va venir les protéger au moment où ils se sont rendus compte de leur vulnérabilité. Donc, à l'intérieur de cette règle, on peut dire fondamentale qu'avait posé Dieu, de cet interdit, de cette défense, vous ne mangerez pas de cet arbre. Encore une fois, c'est absolument pas clair de quel arbre il s'agit. Donc, la limite de Dieu, on croit qu'elle est là, mais en fait, elle n'y est pas, et on ne sait pas très bien où elle est. Et c'est exprès qu'il y a ce doute sur l'arbre dans lequel il s'agit. Eh bien, à l'intérieur de cette défense majeure, eh bien, en fait, il y a quand même beaucoup de jeux, il y a beaucoup de latitude, puisque l'homme et la femme vont aller contre cette règle, et Dieu les laisse faire. C'est là que Adam et Ève, que l'être humain se rend compte de sa capacité à dire oui ou non. Et on a les quelques derniers versets. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin en tant que souffle du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Il reprit « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit à sa femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. » Alors là, c'est très amusant parce que tout le monde se défile. Après avoir manifesté leur autonomie en disant non, l'homme se défile « Ah ben non, 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 c'est pas de ma faute, c'est elle. » Et elle dit « Ah ben non, 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 c'est pas de ma faute, c'est la bestiole, là. » Voilà. Donc ils sont incapables, l'être humain est incapable d'assumer son autonomie qu'il vient pourtant d'acquérir. Et je pense que c'est ça qui pose problème à Dieu, c'est que les êtres humains ne sont pas capables de gérer les limites et les transgressions de limites qu'ils font, de gérer leurs limites et leur autonomie. Et le problème, c'est pas celui de Dieu, c'est celui des êtres humains. Ils ne peuvent plus se présenter devant Dieu. Ils se cachent dans le jardin pour que Dieu ne les voit pas. Je t'ai entendu dans le jardin, répond l'homme, et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, parce que j'étais vulnérable, j'ai eu peur. L'être humain n'est plus capable de se présenter devant Dieu à partir du moment où il a la notion qu'il y a des limites et que son autonomie permet de les transgresser. Et je pense que c'est ça qui est le vrai problème de ce texte. Dieu, lui, n'a pas de problème avec un être humain qui transgresse les limites que Dieu a posées, mais dans un certain cadre, évidemment, mais l'être humain, lui, il n'arrive pas à jouer avec le fait qu'il voudrait être Dieu, mais qu'il ne l'est pas. Et je pense que c'est ça que l'on retrouve de nos jours dans ce que j'appelle dans cette crise de notre rapport à la limite. Enfin, l'expression n'est pas de moi, mais je la reprends parce que je trouve qu'elle s'applique tout à fait à la crise écologique que l'on vit actuellement. Voilà, on a parcouru le chapitre 1, ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Et donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, là? Et puis, je pense qu'on va pas faire le texte de Jérémie. Je vais vous le laisser faire tout seul, je vais vous donner une ou deux autres pistes, et puis on va rapidement lire l'évangile de Luc. Mais avant, peut-être que vous voudriez vous exprimer. Parce que là aussi, il y a des limites, mais vous pouvez maintenant prendre la parole.
Je ne sais pas si vous avez suivi le colloque de l'ISEO. la rivière.
Non, je ne l'ai pas suivi.
Parce que ça a été bien mis en évidence une sorte d'accusation, une reconnaissance que les chrétiens, la chrétienté serait peut-être responsable de la crise écologique. C'est une thèse d'un certain Lynn White dont on a beaucoup parlé. À cause de ces versets de la Genèse où on propose à l'homme de soumettre ou de dominer la nature. Donc c'est une lecture naturellement erronée, mais cette lecture a fait que jusqu'à présent, l'homme s'est cru tout permis sur la création.
Bien sûr.
C'est une révélation pour beaucoup, je crois,
Ah ben c'est une idée quand même qui n'est pas très récente, hein, qui traverse la chrétienté depuis quelques dizaines d'années, hein, d'essayer de remettre en question cette lecture, en tout cas qui nous paraît abusive de ces quelques versets.
Bon, René n'est pas d'accord avec moi, apparemment.
Et Nicole, tu veux dire quelque chose?
Nicole,
ah
bon.
Ah mais moi je trouvais que j'admire la pédagogie de Dieu. Qui justement pose des limites à l'homme, que l'homme est libre de franchir, bon, et après sa prise de conscience, bon, mais il devient vraiment libre. C'est le début de la liberté de l'homme, c'est cette défense et cette transgression. C'est très pédagogique, je trouve. Bon. Et après, bon, bah, évidemment, l'homme se fourvoie. Et il y aura quand même la rédemption par son fils. Donc, c'est beau.
Alors l'homme se fourvoie, oui et non. Hein, dans la Genèse, l'homme n'est jamais maudit.
Il est chassé.
Alors il est chassé, mais il est chassé d'un endroit où de toute façon il devait travailler. Il va vivre ailleurs. En fait, il est envoyé à l'extérieur vers un endroit où il y aura des villes, un endroit où il y aura de la reproduction. Donc il est envoyé vers un autre lieu. Je suis pas sûre que on puisse dire qu'il quitte un endroit extrêmement bien pour aller dans un endroit extrêmement mal. Hein. Donc moi je ne crois pas ça. Je crois qu'il est envoyé vers autre chose, mais qui est au moins aussi positif que là d'où il venait. Encore une fois, je réfute l'idée du paradis.
Non, je ne veux pas dire qu'il se fourvoie parce qu'il est chassé du paradis, mais il se fourvoie dans son évolution. Nous fourvoyons souvent,
c'est ça,
en choisissant mal ce qui est bon ou mauvais vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de la vie.
Oui, on transgresse mal
voilà.
Les limites, et après on est comme Adam et Ève qui se cachent dans le jardin, on n'arrive pas à l'assumer. Et voilà, et du coup tout se fait de travers.
C'est quand même là. Jésus qui est venu nous remettre dans l'ordre.
Alors oui, enfin il nous a quand même pas tout à fait remis dans l'ordre. Hein. Regardez où est-ce qu'on en est.
C'est parce qu'on refuse.
En tout cas, on a continué doucement et certainement à vouloir maîtriser tout ce qui est soumettre toute la création, à penser qu'on pouvait puiser indéfiniment dans les limites. Et à repousser ses limites, on a gaillardement continué. Et on a continué assez souvent avec précisément le Christ comme alibi. C'est ça qu'on va voir dans l'évangile de Luc. Alors, je vous dis juste un mot sur le texte de Jérémie qu'on va pas voir ensemble. Jérémie 5, 20 à 31. C'est extraordinaire parce que Dieu... pour dire aux gens faites attention aux limites, il utilise, alors Jérémie c'est un prophète qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 27 siècles, et Jérémie c'est un prophète, donc Dieu parle à travers sa bouche, hein. Et donc pour dire aux gens dites donc là vous êtes allés trop loin, Jérémie utilise comme exemple le sable. Alors j'ai pas le texte sous les yeux parce que je voulais le projeter, mais on va pas le faire, mais vous le relirez, et Jérémie, enfin Dieu dans la bouche de Jérémie dit « Moi j'ai mis le sable sur les plages pour limiter la mer, et pour que la mer ne puisse pas vous engloutir, et donc vous ne pouvez pas enlever le sable des plages. » À l'époque de Jérémie, personne ne faisait de béton. personne n'utilisait le sable dans l'industrie, évidemment. Donc c'était une métaphore. Mais cette métaphore, elle est devenue hyper actuelle pour nous, parce que c'est un problème majeur, la diminution du sable dans les, sur les plages. Le sable, c'est la deuxième ressource du monde en utilisation après l'eau. Et une fois que le sable il est passé dans l'industrie, il ne redevient plus jamais sable. Donc c'est pas un cycle. Hein. Une fois qu'il est pris dans le béton ou dans d'autres choses, hein, il y a énormément d'industries qui utilisent, ou dans du verre, hein, il y a énormément d'industries qui utilisent du sable. Il pourra plus jamais revenir en tant que sable, plus faire la limite sur les eaux. Et comme ça se combine au réchauffement climatique, pour nous c'est un problème très très aigu. Le fait que quand il y a des limites au bon fonctionnement de l'univers, il faut les laisser. Et l'autre exemple que donne Dieu dans la bouche de Jérémie, c'est celui du temps et du climat, en disant mais Dieu c'est celui qui fait pleuvoir quand il y a besoin de faire pleuvoir. Et ça aussi, ça nous parle particulièrement de nos jours, peut-être même plus qu'au moment de Jérémie.